qui existe déjà, pourquoi chercher, pourquoi refaire ce qui existe déjà. Et en fait, ça n'existe pas encore, donc on va essayer de le faire ensemble. Alors on va lire ensemble. Rabbi Ishmael Omer, tenez. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael nous dit, Bishlosh Esremidot, à Torah, Nidreshet.
Ah oui,
où est-ce qu'il
le
dit?
En haut, tout en haut. Première ligne.
Mais où est-ce qu'il le dit là?
Alors, d'abord, avant de parler des 13 principes, il faut savoir qu'à la base, Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, avait développé 5 principes. Après, avec le temps, les Chachamim en ont rajouté. Quand on dit des principes, ça veut dire des méthodes comment on étudie la Torah Shibirtav, la Torah écrite. Torah écrite, on ne peut pas l'étudier comme ça, juste lire et croire qu'on a compris. Parce que d'abord, comme on verra dans la suite de ce cours, il y a très souvent des contradictions. Donc on est obligé d'avoir une méthode qui nous permet de comprendre comment lire la Torah. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées dans la Torah. Il y a beaucoup de détails dont la Torah ne nous parle pas. D'accord ? Il y a beaucoup de suppositions dans la Torah. Il y a beaucoup de comparaisons dans la Torah. Donc on va être obligé d'utiliser différentes techniques. Et comme on verra, des fois on utilise 2-3 techniques en même temps pour arriver à comprendre qu'est-ce que la Torah Shibirta voulait dire. Donc là, en vérité, on est ici dans la base de la Torah Shebalpé, la Torah orale. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à étudier la Torah orale, il faut d'abord savoir, c'est une sorte de pont qu'il y a entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est le Chumash. Le pont entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est cette fameuse Braïta de Rabbi Ishmael. Donc cette Braïta est une Braïta qui est encore plus ancienne que la Gemara. C'est encore avant la Gemara. Il y en a même qui disent c'est encore même avant la Mishnah. Donc c'est une Braïta qui est très ancienne, et que dans la Gemara, je veux dire, dès qu'on parle de cette Braïta-là, c'est intouchable, quoi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on la lit tous les matins, juste avant Hodou.
Excusez-moi, ça veut dire quoi, Braïta?
Il y a plusieurs Rabbi Ishmael, il y avait un Tana, il y avait un Amora.
Braïta, ça veut dire quoi?
Braïta, c'est un enseignement, d'accord? Donc on appelle ça la Braïta de Rabbi Ishmael.
Non, ma question c'est comment c'est possible que ce soit avant la Torah orale? Parce que la Torah orale non,
c'est... Non, c'est pas que c'est avant la Torah orale. C'est pour nous, pour comprendre, c'est le pont pour comprendre la Torah orale. D'accord. Ça veut dire que la Torah orale va utiliser ces 13 méthodes pour accéder à la Torah Shibirtav.
Pourtant, dans ton discours, tu disais que d'abord t'es attaqué par la Torah écrite.
Oui. Il y a la Torah Shibirtav que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. Ça, c'est la Torah écrite.
Mais celle-ci aussi ne se lit pas facilement.
C'est celle-là qui ne se lit pas facilement. Donc, pour pouvoir la lire, on a besoin des 13 méthodes qu'on va étudier maintenant. Et l'Agmara, c'est essentiellement une utilisation de ces 13 méthodes.
Tu veux bien le Pshat, Remez,
Sol. Là, je parle du Pshat. Comprendre le Pshat de la Torah. Donc, on va commencer. La première méthode, la méthode la plus classique, la plus connue, c'est le Kal Vachomer. Donc, vous voyez, j'ai essayé de mettre en hébreu, en français, à côté. C'est ce qu'on appelle la déduction a fortiori. Alors, Rabbi Ishmael, là-bas, il donne un exemple. L'exemple le plus classique, c'est l'exemple qu'on retrouve dans la paracha Vayichi. Vous avez les références en dessous, si vous voulez, après, dans le français. C'est Yosef et ses frères. D'accord ? Paracha Vayigash, pardon. Yosef et ses frères. On nous dit que Yosef, vous connaissez l'histoire, il a caché dans le sac de Binyamin la coupe, et il l'a, entre guillemets, retrouvée. Donc il a attaqué ses frères, il leur a dit, enfin il ne sait pas encore qui sont ses frères, il leur a dit, pourquoi vous m'avez volé? Alors regardez la réponse de ses frères. Vayom Ruelav, ils lui ont répondu. Donc on va chercher ici une déduction a fortiori. La Mayedaber a donné qu'à Devarimele. Donc les frères de Yosef lui parlent, lui disent, mais pourquoi mon Seigneur tient un pareil discours? Khalila lavadecha me'asot kadavarazé, Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Jamais on n'aurait fait ça. Alors, c'est quoi notre preuve? C'est quoi la preuve qu'on n'est pas des menteurs? Et là, ils vont faire une déduction a fortiori. Ils vont dire, En kesef, asher matzanu befiam trotenu, l'argent qu'on avait trouvé dans nos sacs. Parce que vous vous rappelez qu'ils avaient trouvé de l'argent dans leurs sacs. Ils sont venus pour le ramener. Et après, il leur a dit, non, vous pouvez le garder. Et après, ils sont venus, on a retrouvé officiellement la coupe dans le sac de Binyamin. Donc ils l'ont dit comme ça. Ils l'ont dit, l'argent qu'on avait, eshivonu elecha. On l'a ramené vers toi, mais Eretz Kenan, quand on est rentré chez nous, en terre de Kenan, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent qui ne nous appartenait pas, on est revenu spécialement pour te le ramener. Comment tu crois qu'on va voler de chez toi de l'argent ou de l'or? D'accord? Ils l'ont ramené spécialement?
Non.
Si, Jacob, quand il leur a dit qu'il y a de l'argent, il leur a dit, vous allez ramener tout de suite, je ne veux pas cet argent. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus.
Ils sont revenus pour ramener de l'argent parce qu'ils avaient plus à manger.
Non, mais Jacob, non, ils sont revenus. Ils avaient déjà mangé. Ils sont revenus, Jacob, il leur a dit. Ils avaient déjà ce qu'il faut pour plusieurs mois. Et Jacob, il leur a dit, vous devez retourner pour rendre cet argent qui ne vous appartient pas.
Exact.
Et après, quand ils vont revenir, d'accord, on va voir cette histoire avec Binyamin. Donc, il pose une question très simple. Il te dit, mais attends, l'argent qu'on avait, que tu nous as donné, on te l'a ramené. Alors, comment tu penses qu'on va voler? On vient ici, Rabbi Shmuel nous dit qu'on a ici un exemple type d'un calvachomer. Donc on a, en dessous, on a donc en français, j'ai dit, si nous avons rendu l'argent trouvé, à plus forte raison qu'on n'a rien volé.
C'est bizarre parce que Binyamin n'était pas du premier voyage.
Très bien, j'ai compris, mais eux, il y a une logique très forte dans ce qu'ils disent. Ils disent, tu nous accuses d'avoir volé de l'argent. Non seulement on n'est pas des voleurs, mais on est plus qu'honnêtes. L'argent que tu nous as donné, on te l'a rendu. D'accord.
Ce qui précise, c'est que la personne qui l'a pris aurait pu être celui qui n'a pas rendu.
J'ai compris. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, et est-ce que pour vous, ce calvachomer est logique? Est-ce qu'on peut le casser? Mettez-vous dans la tête de Youssef. Comment on le casse?
Vous n'étiez pas voleur avant, vous êtes voleur maintenant.
D'accord. Ça ne tient pas. Non. Non, il a une preuve qu'il est honnête.
Oui, mais
c'est une preuve d'honnêteté. Est-ce qu'on peut casser? C'est peut-être une ruse, il a raison. Vous voyez, quand on réfléchit, on voit que c'est pas si simple que ça.
Parce que l'argent c'était flagrant.
Et c'est ça, hein.
Coup, c'était moins flagrant.
Très bien. Voilà. Vous voyez, peut-être que Binyamin, c'était une ruse. Voilà. Peut-être c'est pour paraître honnête, pour mieux voler après.
Exactement.
D'accord. Tiens. C'était une ruse pour mieux voler après. Donc, vous voyez, ça c'est dans la Gemara. Il y a très souvent des calvachomer comme ça qu'on développe. On essaye de faire une déduction. Et après, on dit non, mais ta déduction n'est pas logique parce que peut-être qu'en vérité, voilà, par exemple, dans ce cas-là, Yosef aurait pu leur répondre, aurait pu leur dire non. Mais en vérité, la première fois, c'était une ruse pour mieux voler la fois d'après. Il aurait pu le dire ça. D'accord ? Ok. Ça, c'est un premier exemple.
Endormir l'ennemi.
Là, il n'y a pas d'implication à l'Arique dans cet exemple. C'est juste un exemple de calvachomer. Dans les deux exemples suivants, il y a une implication à l'Arique. Le calvachomer, c'est ce qu'il y a de plus connu dans la Torah chez Balpé, dans la Gemara. Donc, deuxième exemple, c'est la médisance de Myriam. Donc, on est dans la paracha Béalotra. On nous raconte que Vayomer Adonai El Moshe, Dieu a dit à Moshe. C'était l'histoire après Myriam. Myriam qui avait manqué de respect à Moshe Rabbeinu. D'accord ? Et donc, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit comme ça. Elle a eu la lèpre. D'accord ? Donc il a dit comme ça. Il a dit, Ve'avia Yarok Yaragbefanea, si son père avait craché dans sa figure, Alotikalem, n'est-ce pas ? Qu'elle aurait été, alors ici ils ont traduit par mortifié, mais c'est la traduction du rabbinat, hein, je ne suis pas responsable. Alotikalem, n'est-ce pas que.
Il y a du copier-coller.
D'accord. Sur le rabbinat, oui. C'est pris dans le site sfarim.fr, les traductions. Mais il fallait chercher. Il fallait chercher déjà les exemples. Il faut d'abord chercher les exemples, chercher les psukim, c'est un boulot.
Sfarim.fr.
Il ne faut pas se tromper de psukim.
Ah oui.
Donc,
si son père lui avait craché au visage, Allo Tikalem Shivat Yamim, n'est-ce pas que Allo Tikalem Shivat Yamim, elle serait restée au moins une semaine chez elle à la maison, rouge de honte. Alors, Kisager Shivat Yamim Yuchutz la Machane. Dans ce cas-là, qu'elle soit enfermée chez elle à la maison, en dehors du camp, pendant 7 jours, Ve'achar Te'asef, et après elle pourra revenir, elle sera admise au camp. Donc ça c'est, ici on a en vérité un double calvachomer. D'abord, dans la rhétorique, dans ce cas, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, si déjà elle avait fait honte à son père, qu'est-ce qu'on aurait dit? De honte, elle serait restée une semaine à la maison. Maintenant, elle m'a fait honte à moi. Donc, à plus forte raison que, elle doit rester chez elle à la maison une semaine. Pourquoi elle m'a fait honte à moi? Parce qu'elle a parlé sur Moshe Rabbeinu. Donc, Kadosh Baruch Hu lui-même a utilisé ici un calvachomer. De là, la Gemara va apprendre, de mémoire dans la Gemara Sanhedrin, elle va apprendre que quand on met une personne en quarantaine, une mise en quarantaine classique, ça dure au minimum 7 jours. Pourquoi? Parce que si déjà Myriam, que c'était pas public, c'est vrai qu'elle a manqué de respect à Kadosh Baruch Hu, mais c'était pas public, personne l'a vu, à part Moshe, à part Aaron, personne l'a vu. Et pourtant, on voit qu'Akadosh Baruch Hu l'a puni et lui a dit 7 jours. Donc, à plus forte raison que quand c'est une personne qui est mise en quarantaine publiquement, c'est sûr que la mise en quarantaine dure au minimum 7 jours. Donc, vous avez compris ce qu'on a fait ici? Ici, on a fait un double calvachomer. D'accord? On est d'accord? C'est-à-dire, déjà, Dieu, quand il a parlé à Moshe Rabbeinu pour lui annoncer la sentence de Myriam, il lui a dit, si elle avait manqué de respect à son père, elle serait restée chez elle 7 jours. Donc, à plus forte raison qu'elle m'a manqué de respect, elle restera chez elle 7 jours. Nous, on fait de ça dans la Gemara un deuxième calvachomer, et on te dit, une deuxième déduction a fortiori. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, si déjà Myriam, qu'elle a fait ça discrètement, elle a reçu quand même une punition qui a duré au minimum 7 jours, de là on apprend que quand une personne manque de respect au tribunal, quand une personne manque de respect à Kadosh Baruch Hu, et que le Bedin décide de mettre la personne en quarantaine, la mise en quarantaine durera combien de jours minimum? 7 jours. De là on a la Halakha dans Shulchan Aruch qui nous dit que quand on met quelqu'un en quarantaine, c'est minimum 7 jours. Pas moins que 7 jours. Donc on a appris de Myriam, et Myriam on l'a appris de calvachomer si elle avait manqué de respect à son père.
On dit pas?
Bonne question, une question de Tosfot là-bas. Il dit que la réponse qu'il donne là-bas, il dit que comme on voit que Kadosh Baruch Hu a utilisé cette technique-là, donc c'est pour ça que nous on s'est permis de l'utiliser. J'explique la question de Yonel. Yonel, il dit normalement, il y a un principe qui dit qu'on n'a pas le droit de punir quelqu'un en se basant sur une méthode de déduction. C'est-à-dire que là, a priori, tu veux punir quelqu'un, la Torah ne l'a pas dit.
C'est
pas une preuve directe. La réponse, c'est que comme Akadosh Baruch Hu, lui aussi,
il a utilisé
ça, tu vois, dans le passage où Akadosh Baruch Hu l'a fait, donc c'est pour ça que nous, on se permet de le faire, mais en général, on ne le fait pas. Troisième exemple. D'accord. Ici, j'ai mis trois exemples parce que Kal Vachomer, c'est vraiment quelque chose qui est très connu. Et je vous en supplie, comme c'est la première fois que je fais ça, donc je vous demande s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on développe plus, il faut le dire, parce que moi, je fais le cours, mais je ne me rends pas compte forcément quand les choses sont mal comprises.
Puisqu'Akadosh Baruch Hu a utilisé cette méthode, ça devient croc.
Non. C'est comme Akadosh Baruch Hu s'est permis d'utiliser un Kal Vachomer pour punir quelqu'un, donc nous aussi, on se permet de le faire. Oh, ça, c'est... Je ne voulais pas entrer dedans, dans ce cas-là spécifiquement. Troisième exemple, le Sefer Torah du roi. Vous savez que chaque personne du Ham Israël a la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, on peut se rendre quitte de cette mitzvah, soit en participant dans un Sefer Torah, soit en achetant un chumash. Et chacun doit avoir au moins un chumash qui lui appartient. Alors, à part ça, le roi...
C'est moins cher. On doit l'acheter, si on te peut offrir.
Normalement, il faut essayer dans sa vie de faire un Sefer Torah. Maintenant... C'est mieux que rien. C'est mieux que Roumache. Maintenant, à part ça. Bon. Si un jour Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu nous enverra les sous, on pourra acheter un Sefer Torah. C'est tout.
C'est la dernière mitzvah,
oui. D'accord. Maintenant, à part ça, d'accord. C'est la dernière mitzvah de la Torah. À part ça, maintenant. On a une deuxième mitzvah pour le roi. Le roi doit écrire un Sefer Torah supplémentaire. C'est-à-dire qu'il a un premier Sefer Torah en tant que personne du peuple. Il a un deuxième Sefer Torah en tant que roi, qui devra faire écrire dès qu'il est nommé roi. Donc il devra donc demander à ce qu'on écrive un Sefer Torah dédié pour lui. Le pasouk nous dit la chose suivante. Et là, vous allez voir que de ce pasouk-là, on va apprendre des choses pour nous, qui ne sommes pas rois, jusqu'à nouvel ordre. « Ve'aya cheshivto al kisev amlarto » Lorsque le roi occupera le siège royal, vechatavlo et mishna Torah azot, donc il écrira pour son usage et mishna Torah azot, une copie du Chumash, al sefer, donc sur le livre, milifne al kohanim al leviim, en s'inspirant, d'accord, des kohanim. Ça veut dire que, de la même manière que le kohanim devait le faire, lui aussi devait le faire. Vehaïta imo, voilà où je veux m'arrêter. Regardez bien ce qu'on va dire maintenant. Vehaïta imo, ce sefer Torah restera toujours avec lui. Vekaravo kol imechayav, et il devra y lire toute sa vie, dans ce sefer. Les ma'an ilmad, afin qu'il apprenne, pourquoi on doit lire dans ce sefer, afin qu'il apprenne, lire à et Hashem Elokav, comment craindre son Dieu. Il lira la Torah pour apprendre comment craindre son Dieu, ainsi que l'ishmor et kol divrei Torah azot, ainsi que comment garder toutes les paroles de la Torah, ve'et achukim ha'ele, ainsi que toutes les lois qui ne sont pas forcément compréhensibles, la sotam, pour les accomplir de manière concrète.
C'est la première partie qu'on ne comprend pas.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce pasouk-là.
C'était la seule chose qu'on ne pouvait pas donner, la crainte.
Non, afin qu'il apprenne comment craindre.
Qu'il apprenne comment
craindre. Enfin, apprendre.
Mais justement, excuse-moi, mais je vois pas comment on peut faire pour apprendre ça.
On doit apprendre qu'est-ce que c'est la crainte.
Non, en étudiant.
Même chose.
En
étudiant,
on apprend.
Comment apprendre à avoir la crainte?
Oui, c'est ça.
Comment ça s'apprend, ça?
On apprend, bah, il faut apprendre d'abord, le Rambam il dit comme ça, il dit comment on apprend la crainte, bon, c'est pas le thème, hein, je vais refaire la parenthèse tout de suite, il te dit comment on apprend la crainte,
c'est le sujet là,
d'accord, non, le sujet c'est d'expliquer le Kal Vachomer, pas du tout,
je vois pas comment tu peux
Rambam il pose la question, il pose la question à Rambam, il dit, je réponds parce que c'est vous, il répond, je rigole, c'est étonné,
parce que tu m'avais, mais,
je plaisante. Rambam lui pose la question, il dit, comment on peut donner l'ordre à quelqu'un de craindre? Si j'ai pas peur.
Tu peux
me donner l'ordre de faire quelque chose, mais c'est comme tu peux me donner l'ordre d'aimer le café. Si j'aime pas le café, tu peux me donner l'ordre de le boire, mais pas d'aimer le café. Rambam il explique que la mitzvah c'est pas de craindre et d'aimer. La mitzvah c'est de se mettre en condition pour craindre et aimer. Donc réfléchir à la chose, voilà. Réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, réfléchir à ce qui se passe aux États-Unis maintenant, réfléchir à l'état de choses, voilà. Qui font que quand on réfléchit à tout ça, ça nous inspire naturellement la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le roi doit étudier le Sefer Torah. Maintenant, a priori, cette mitzvah, je reviens à notre sujet, cette mitzvah, a priori, concerne que le roi. D'accord ? La Gemara Sanhedrin, elle reprend ce pasouk-là, et elle te dit, si déjà le roi qui est très occupé, il est très occupé, il n'y a pas de personne plus occupée que lui dans le peuple. Parce qu'un roi dans la Torah, c'est pas comme les rois qu'on lit dans les livres d'histoire. Un roi dans la Torah, c'est une personne qui est très occupée, plus qu'un président. Si déjà un roi qui est très occupé, il a quand même la mitzvah d'étudier sans cesse, comme on l'a vu dans le pasouk, Vekarabo Kolimechayav, il lira dans ses livres toute sa vie, à plus forte raison qu'une personne classique du peuple, qui n'est pas autant occupée que le roi, c'est sûr que lui aussi, il a la mitzvah d'étudier la Torah constamment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la Torah, c'est pas écrit explicitement qu'on doit étudier la Torah toute la journée. C'est pas écrit.
D'accord.
C'est écrit qu'on doit étudier la Torah, Yomam Valaila, le jour et la nuit, ok, mais c'est pas écrit qu'on doit l'étudier le maximum possible. D'où on apprend qu'on doit étudier la Torah le maximum possible? C'est pas écrit. C'est écrit seulement qu'il faut étudier la Torah un peu le jour, un peu la nuit. D'où on sait qu'on doit étudier la Torah le maximum possible dans la Torah chez Birtav, la source est de son Sefer. Que puisque le roi, on lui demande de son Sefer Torah, d'étudier la Torah constamment, on vient de le lire. Il lira toute sa vie pour qu'il apprenne comment craindre son Dieu, pour garder la Torah, on lui demande de le faire. Si déjà le roi qui est très occupé, il doit le faire, à plus forte raison, kal va chomer, kal en hébreu, ça veut dire léger, chomer, lourd. Ça veut dire à plus forte raison que une personne qui n'est pas autant occupée que le roi, c'est sûr qu'il doit en faire de même. On est d'accord? Est-ce que vous avez de quoi objecter sur ce kal va chomer? Rappelez-vous, une déduction a fortiori, ça veut dire que ça doit être logique. C'est-à-dire qu'on doit avoir il faut s'imaginer comme si on a une balance. On a un qui est léger, l'autre qui est lourd. Ce que tu as appliqué pour celui qui est léger, à plus forte raison que tu l'appliques pour celui qui est lourd. On est d'accord? Vous voyez la logique qu'il y a dans les trois ici? Oui? Je repasse une couche ou pas?
Pourquoi léger et lourd? Pourquoi tu les...
La traduction?
Calvar.
Non, mais... Quand tu fais une déduction, comment tu déduis? Tu dis, si déjà le cas qui était léger, on lui appliquait la loi, à plus forte raison que le cas qui est lourd, on va lui appliquer la loi.
Alors, sur l'inverse, sur les cas du roi, ça serait plutôt
le roi plus lourd
non.
Que nous.
Si déjà le roi, qui normalement devrait être celui qui devrait étudier le moins, donc il est le plus léger par rapport à la mitzvah d'étudier. Ouais. Parce qu'il est très occupé. C'est la personne qui est le plus occupée au monde. Et si déjà lui, la Torah lui demande d'étudier constamment, donc il était léger à la base par rapport à la mitzvah.
La notion de lourd et léger.
C'est ça. Ça veut dire que d'emblée, dès que tu les présentes devant la loi, le roi est plus léger parce qu'il dit « je serai très occupé ». Et quand même, on lui impose d'étudier la Torah constamment, à plus forte raison que celui qui a du temps, c'est sûr voilà, qu'il doit étudier la Torah constamment.
Il est lourd en occupation.
Et il est lourd. Et pourquoi il est lourd? Parce que dès qu'il s'approche à la mitzvah, on lui dit « bah écoute, toi t'as pas d'occupation, tu dois étudier ». T'as compris? On retrouve aussi ça surtout dans le deuxième exemple. Je pense que le meilleur exemple de Kal va'chomer, c'est le deuxième exemple. C'est le plus facile. Parce que dans les amis de Kal va chomer, on dit comme ça. Dieu, il dit, si déjà, elle avait fait quelque chose qui est, entre guillemets, léger, elle avait manqué de respect à son père, sans manquer de respect à Dieu, sans que ce public, de honte, elle serait restée chez elle 7 jours à la maison, à plus forte raison que quand c'est du lourd, ça veut dire qu'elle a manqué de respect à Dieu, c'est sûr que ça va durer combien? 7 jours. De là, la Gemara apprendra, si déjà, quand c'était, entre guillemets, entre quatre murs, c'était léger, déjà on l'a puni 7 jours, à plus forte raison que quand le manque de respect envers Dieu était public, donc c'est plus lourd, c'est sûr que ça devrait durer 7 jours. Kal va chomer. Ça, si vous cherchez, hein, j'ai pas fait la recherche, mais si vous cherchez dans les moteurs de recherche le nombre de fois où c'est mentionné Kal va chomer dans la Gemara, alors ne cherchez pas seulement le mot Kal va chomer, vous pouvez chercher aussi Kouf, avec les guillemets, et Vav. D'accord? Ça fait Kal va chomer. Très souvent, très très souvent dans la Gemara, on doit le trouver sans exagérer des milliers de fois. Des milliers de fois. Il n'y a pas une Gemara, il n'y a pas un chapitre où on n'a pas au moins une fois le Kal va chomer.
Contradiction dans la Torah.
Oui.
Quand on voit le lépreux qui a le lépreux, d'accord, il est impur parce qu'il est, il a une plaie blanche, etc. Alors tu peux te dire s'il est entièrement blanc, il est archi impur. Et on peut te dire que s'il est entièrement blanc,
il est pur.
Parce que la Torah le dit.
Oui, mais alors.
C'est la Torah qui l'a dit.
On est bien d'accord.
Non. Je comprends. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit que quand une personne a une tache blanche, il est impur.
Deux taches blanches,
il est doublement impur. Mais si tout son corps devient blanc, il est pur. Mais ça, on peut se permettre de le faire seulement parce que la Torah l'a dit.
Oui.
Là, on est en train d'essayer de ce que la Torah n'a pas dit. Tous les trois cas que j'ai cités ici, c'est des choses que la Torah n'a pas dit. La Torah n'a pas dit qu'on doit les trouver tout seul. D'accord? Donc ça, c'est un cas classique. Maintenant, on va rentrer maintenant dans un cas un peu plus facile. La méthode numéro 2. Méthode numéro 2, c'est quoi? C'est la Gezera Shava. D'accord? Mikal va chomer, donc le premier c'était Kal va chomer, la déduction à force. Est-ce que tout le monde a compris la première méthode? On repasse une couche ou c'est bon? Soyez honnête, il n'y a pas de problème.
C'est de la transitivité mathématique.
On l'avait déjà.
Oui, là je l'ai fait avec des exemples.
La première c'est une transitivité.
D'accord?
Ça fait ça, ça fait ça, alors ça fait ça.
Si déjà celui qui est léger le fait, forcément celui qui est lourd.
C'est la fin de la première.
D'accord?
C'est pas une transitivité.
Je vous donne un exemple. On dit par exemple, voilà, on parle de ce qui se passe à Brooklyn maintenant, ce qui se passe à Manhattan. Je te dis, imagine-toi maintenant que je te dis que Brooklyn, qui est loin de la mer, est plein d'eau. Je dis, si déjà Brooklyn, qui est loin de la mer, est plein d'eau, à plus forte raison que Manhattan, qui est à côté de la mer, est plein d'eau. Donc il y a plein de cas dans la Torah, des cas que la Torah n'a pas cités, mais qu'on va trouver de nous-mêmes, parce qu'on va dire, la Torah a parlé d'un cas qui est léger, donc à plus forte raison pour lequel il y a énormément de cas où il y a le Kalvachomer.
Les Kalvachomer étaient déjà définis.
Non, c'est l'Xera Shavah.
Ah, d'accord.
Voilà. Maintenant, on a la deuxième méthode, qui est aussi très connue, c'est la méthode de la Gezera Shavah. C'est quoi Gezera Shavah? Donc ici, j'ai traduit par comparaison, par mot commun. Donc là, en vérité, ce qu'on va faire, on va donner des exemples. J'ai pris ici plusieurs exemples. On va donner des exemples, deux exemples que j'ai pris, dans lesquels on va apprendre une halakha qui n'est pas écrite dans la Torah, en comparaison, quand on va comparer des mots communs dans la Torah. Alors, le nombre de Gzera Shava dans la Torah est déjà défini. On n'a pas le nombre exact, nous on ne le connaît pas, mais les Rahamim le connaissaient. D'accord? Donc ça doit être quelque part à plusieurs milliers. Et donc, on n'a pas le droit, moi aujourd'hui, je ne peux pas venir et dire c'est écrit dans un pasouk Vayomer, dans un autre pasouk Vayomer, alors c'est fini, on fait une comparaison. Quand on fait une comparaison, il faut que la comparaison a du sens, comme on va voir dans les deux exemples. On va commencer directement l'exemple pour comprendre. Premier exemple, c'est la pratique des sacrifices qui repoussent le Shabbat.
Allez. D'où on sait que c'est limité, que le nombre est limité?
Ça, c'est la Gemara qui dit, parce que très souvent dans la Gemara... Hein,
c'est marqué quelque part?
Oui, bien sûr. Très souvent dans la Gemara, quand une personne propose une nouvelle Gzera Shava, une nouvelle comparaison, on lui dit « Ah, mais attends, on a un compte déjà, donc il va devoir enlever une autre quelque part. » Mais s'il enlève une autre quelque part, on dit « Mais attends, mais celle-là, elle nous servait à quelque chose. Comment tu apprends ce quoi elle nous servait ?» Et des fois, on peut passer des pages et des pages comme ça. Parce qu'on a un nombre défini. Qu'on a reçu à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Nous, on le connaît pas aujourd'hui, mais les maîtres de la Gemara le connaissaient.
Il suffit
ça veut dire que nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire de nouvelles comparaisons. On peut seulement lire ce qu'il y a dans la Gemara.
On peut pas le compter, le nombre de comparaisons qu'il y a dans la Gemara?
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on a peut-être perdues. Si on peut compter, on va arriver à quelques milliers.
On peut pas le compter.
Si, dans la Gemara, on peut le compter.
Dans la Gemara, on peut le compter. Le nombre de fois qu'il y a une Gezera.
Celui qui a fait une chasse, il pourrait...
En tout cas, ça n'a jamais été cité. On n'a jamais dit, il y en a tant et tant de Gezera Shava. Ça n'a jamais été cité. Alors regarde, on va faire tout de suite cet exemple. Donc on va faire une comparaison par mot commun. Donc pour apprendre quoi? Le thème, c'est la pratique des sacrifices repousse le Shabbat. Normalement, faire un sacrifice, c'est assour le Shabbat. Parce qu'un sacrifice, c'est sacrifier un animal, faire une shritat d'un animal, c'est une melacha qui est interdite le Shabbat. Alors pourtant, la pratique des sacrifices au Beit HaMikdash repousse le Shabbat. D'où on le sait? Premier pasouk, c'est un pasouk à propos du Korban Pessah. À propos du Korban Pessah, c'est écrit « Veyasu bene Israël et à Pessah be Morado ».
On s'entend.
Que Akadosh Baruch Hu nous dit que les bene Israël devront faire le Korban Pessah en son temps. En son temps, ça veut dire quoi en son temps? Pessah, c'est une fois par année. On sait que la Torah nous a déjà dit que le Pessah, c'est le 14 Nissan, après l'après-midi. Donc pourquoi vous me préciser en son temps? Bien sûr, je vais faire un récit quand tu veux que je le fasse. De là, l'Agmara a pris, pourquoi on te précise en son temps? C'est pour te dire que même si la veille de Pessah tombe un Shabbat, on fera quand même le Korban Pessah. Et qu'est-ce qui se passe pour les autres sacrifices? Est-ce qu'on peut les faire aussi? A priori, la Torah n'en parle pas. Attendez, la Torah n'en parle pas. Non, il n'y a pas de Kalvachomer là. La Torah n'en parle pas. Il te dit, est-ce qu'on peut faire un Kalvachomer pour ça?
Pour l'instant, il te dit.
Il n'y a pas de déduction, non? Parce que si la Torah m'a dit pour le Korban Pessah que je dois le faire en son temps, ça veut dire peut-être c'est exceptionnel parce que c'est une fête exceptionnelle. Rien ne te dit que les sacrifices de tous les jours repoussent le Shabbat.
Obligatoire.
Du fait
qu'il est obligatoire.
Non, il n'y a pas de Kalvachomer. On peut te dire que c'est exceptionnel parce que c'est une fête exceptionnelle qui arrive une fois par an. D'où on sait que les sacrifices de tous les jours repoussent le Shabbat? Parce qu'il y a un deuxième passage. Un deuxième passage qui nous dit, par un chat très connu, Savet Bnei Israël, ordonne au Bnei Israël, Ve Amartal et Emmet, tu leur diras, Et Korbani, Lachmi, Leishai, donc mes offrandes, ce pain qui se consume pour moi, Reach Nihori, c'est une bonne odeur pour moi, Tishmeru, vous aurez soin de me le présenter, Léa Krivli, donc de me le présenter, et regardez bien ce qui est écrit, Be Moado, en son temps. D'accord? En son temps. Là, le mot en son temps n'est pas en trop ici. Pourquoi il n'est pas en trop? Parce qu'on va simplement te dire qu'il faut le faire tous les jours. Seulement, le mot bémoado me rappelle un autre bémoado qu'on a vu. Le premier bémoado. Donc c'est dans une paracha complètement différente. Vous avez des références là. Bamidbar 9.2, Bamidbar 28.2. Mais dans les deux, on retrouve le même mot, bémoado. Et puisque dans le premier, le mot bémoado, en son temps, nous a appris que le Korban Pessah peut repousser Shabbat, De là, on apprend que le korban tamid, le korban journalier qu'on fait tous les jours, qui lui aussi est bemoado, qui lui aussi, on a le retrouve le mot bemoado en son temps, lui aussi repoussera le Shabbat. Mais ça veut dire que les sacrifices sur lesquels il n'y a pas écrit le mot bemoado, par exemple, je vais offrir un korban pour remercier Akadosh Baruch Hu, korban toda. J'arrive vendredi après-midi à Jérusalem, je veux offrir le korban Shabbat. Est-ce que je peux le faire ? Je ne peux pas. Parce que sur le korban toda, le korban de remerciement à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas écrit le mot bemoado. Donc je ne peux pas.
Il n'y a pas de précision.
D'accord ?
Korban,
je ne comprends pas.
Si, parce que là, la paracha de Tzavet Béni Yisraël.
Repousse, ça veut dire ça.
Non, quand on dit repousse le Shabbat, ça veut dire que j'ai le droit de faire le sacrifice.
Oui.
Bien que c'est un Shabbat. Normalement, Shabbat, on n'a pas le droit.
Au milieu.
En plein Shabbat.
En plein Shabbat.
En plein Shabbat, au Beth Amikdash, on faisait les sacrifices.
C'est pas une bonne traduction.
Ouais.
Pourquoi ?
Repousser.
C'est pas annule. Annule. Oui, ça peut annule le Shabbat.
Dans la Torah, non, parce que dans la Gemara, elle parle.
Ça va.
Non, il annule pas.
Ça va au-dessus, mais on repousse.
Il repousse l'interdit du Shabbat.
Oui.
Voilà.
Voilà.
Voilà. Parce que dans la Gemara, on parle de dans la Gemara, on parle de Doré Shabbat.
Mais là, il faudrait voir la traduction.
En vendredi midi, pourquoi c'est refusé ?
Non, là, c'est pas. On te dit que le corps, voilà, par exemple, Shabbat matin au Beth Amikdash, est-ce qu'on fait le korban tamid ou pas ? Le korban journalier, le korban du matin et le korban de Mitra, est-ce qu'on le fait ? Il y a rien qui me dit que je le fais. Pourquoi, de quel droit je le fais ? La Torah m'a interdit de faire la shrita d'un animal. De quel droit je le fais ? On te dit, puisque dans le Corban Tamid, il y a écrit le mot Bemoado, et que dans le Corban Pessah, il y a écrit aussi le mot Bemoado, et que si la veille de Pessah tombe Shabbat, le Corban Pessah repousse le Shabbat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on le fera quand même, quoi qu'il arrive. Donc, puisque les deux partagent le même mot Bemoado, de là j'apprends que le Corban Tamid, lui aussi, repousse l'interdit du Shabbat, et donc on le fera au Beth Amikdash, comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas Shabbat.
Je comprends qu'on ne puisse pas en rajouter, parce qu'avec ça, on peut aller très loin. Et avec des histoires de mots, je comprends qu'on ne puisse pas en rajouter comme ça. Parce que
oui.
À force de dire, voilà, c'est le même mot, donc je vais en faire une grâce Shabbat à chaque fois, on peut arriver à...
Alors, maintenant, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a une logique ? Il y en a des milliers.
Des milliers.
Il y en a des milliers de comparaisons qu'on pourrait faire.
Il n'y a pas des mois.
Qu'est-ce qu'on remarque dans cet exemple ? D'abord, on remarque que c'est pas forcément logique. Il n'y a pas de logique dans ce que je viens de dire. Il n'y a aucune logique dans ce que je viens de dire. D'accord ?
Il n'y a pas de logique.
D'accord ? Pourquoi il n'y a pas de logique ? Parce que la seule logique, c'est ce qu'on te dit. La Torah te dit, si tu veux m'étudier, sache que des fois, pour me comprendre, il faut comparer un mot ici, un mot ici. Pour savoir que deux cas se comparent. Mais est-ce qu'il y a une logique mathématique ? Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Dans le premier, il y avait une logique mathématique. Dans les cas suivants, il y aura beaucoup de logique mathématique. Les matheux seront servis. D'accord ? Mais dans celui-là, il n'y a pas. C'est une xéra. C'est pour ça.
Non.
Rabbi Shmuel nous a. Ça, c'est depuis Hillel, déjà, on l'avait. C'est pour ça qu'il y a ici le mot xéra. C'est quoi xéra en hébreu ? C'est un décret. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logique. Mais néanmoins, vous remarquez que pourquoi on s'est permis de comparer les deux cas ? Parce que quand même, dans les deux cas, on parlait de sacrifice. On ne va pas te comparer un sacrifice et un autre truc. D'accord ? Les deux parlaient de sacrifice, sauf un c'était le sacrifice de Pessah, l'autre c'est un autre sacrifice. Donc on s'est permis de les prendre, de les comparer. C'est pour ça qu'on s'est permis de le faire. Mais il n'y a tout de même pas de logique. Il n'y a pas de logique. D'accord ? Donc voilà, il faudra rajouter peut-être dans
mes notes de moi-même. On s'est permis de comparer parce que c'est écrit.
Comme c'est la V1, c'est une version bêta. Donc voilà, on va rajouter, repousse le...
Les interdits.
Comme ça, si je le donne à des copains, au moins ils auront la version corrigée. Oui, sacrifice, pratique sacrifice. D'accord, dans les deux cas. Ok, donc le korban pessah, le korban tamid.
Mais là, on peut faire une comparaison parce que c'est écrit, mais on peut pas se permettre de faire une comparaison comme ça.
Non. Parce que la Gemara l'a dit, d'accord.
Les comparaisons, ça amène à...
Donc vous voyez, le mot commun qu'il y avait, c'était quoi ? C'était le mot...
À notre époque, tu lances un logiciel qui te met les comparaisons.
Ah, tu fais ce que tu veux.
Tu fais un massacre.
C'est du protestantisme et d'autres
religions. Ouais, l'école de la Torah. Je voudrais finir avec le... Messieurs.
Ça fait d'autres religions.
Je voudrais finir avec le deuxième exemple, puisque c'est déjà l'heure, hein, ça passe très vite, Baruch HaShem. Le deuxième exemple, c'est à propos de l'horaire maximal pour le Korban Pessah. Jusqu'à quelle heure on peut manger le Korban Pessah ? Nous, on sait, on connaît la halakha, c'est qu'on peut le manger jusqu'à Khatos, jusqu'à la moitié de la nuit. Mais d'où, ça, la Torah ne l'a pas dit. D'où on le sait. Donc on va utiliser encore une fois une Gzera Shava. Une comparaison. Regardez. Premier pasouk, c'est un pasouk qui nous dit la chose suivante. Ve'achlu et abbasar balayla azé. La Torah nous dit qu'on devra manger la viande, donc du Korban Pessah, pendant cette nuit. Bon, pendant cette nuit, ça veut dire toute la nuit. Il n'y a pas de précision sur l'heure. Tsliyesh ou matzot, d'accord? Donc on le mangera rôti au feu, almerorim yochlu, accompagné d'herbe amère. Jusqu'ici, il n'y a pas d'horaire. On peut le manger jusqu'au petit matin, on est d'accord? C'est écrit balayla, c'est la nuit. Donc on retient le mot balayla azé. Un peu plus tard, il y a un autre pasouk qui te dit Ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla azé. Dieu il dit je passerai en Égypte pendant cette nuit. Donc vous remarquez le mot balayla azé. Vous voyez une comparaison peut être des fois avec deux mots. Donc on retrouve les mêmes balayla azé. Ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim et je frapperai tout premier né en terre d'Égypte. Mais Adam ve'ad be'ema depuis l'âme jusqu'à la bête. Bon, sauf que dans le deuxième cas, on sait par un troisième pasouk que la plaie des premiers nés s'est passée à quel moment? On a le troisième pasouk qui nous dit Kachatzot alayla, au milieu de la nuit, aniyotse betor mitzraim, je m'avancerai donc à travers l'Égypte, ou met kol bechob eret mitzraim, et mourira tout premier né au travers de, d'accord? Mourira tout premier né au travers de l'Égypte. Donc de là on voit que quand Akadosh Baruch Hu va passer pour la mort des premiers nés, ça sera au milieu de la nuit. Donc puisque dans le deuxième pasouk c'est écrit balayla azé, Dieu il dit je passerai en Égypte balayla azé pendant cette nuit. Et que nous on sait que ce balayla azé veut dire au milieu de la nuit. De là on apprend que quelques versets plus tôt, quand c'est écrit tu mangeras la viande balayla azé, bien que la Torah n'a pas précisé, puisque l'autre balayla azé voulait dire au milieu de la nuit, ce balayla azé voudrait dire aussi jusqu'au milieu de la nuit. De là on a appris qu'on peut manger le korban pessah seulement jusqu'à chatzot. Alors encore une fois, il n'y a pas de logique mathématique, mais pourquoi on s'est permis de les comparer? On s'est permis de les comparer parce que les deux parlent du même thème.
Ben non.
D'accord? Ben oui. Les deux parlent de la sortie d'Égypte. Le Corban Pessah, c'est pour rappeler la sortie d'Égypte.
Ouais. Ouais, autant d'accord dans le premier cas, on voit bien qu'on parle de la même chose. Autant dans le deuxième cas, on voit qu'il y a trois versets. Les deux derniers parlent exactement de la même chose, mais le premier est un peu...
J'ai compris. Différent. Mais la différence, c'est que... Non, le dernier, c'est juste pour comprendre de quoi parler
le
deuxième cas.
Le deuxième cas.
D'accord? Mais le premier et le dernier, ils parlent de la même chose parce que pendant cette nuit, quand Akadosh Baruch Hu est en train de... Cette même nuit, du 14 Nissan 2448, quand Akadosh Baruch Hu était en train de frapper, enfin c'était le 15 Nissan, la nuit du 15 Nissan, quand Akadosh Baruch Hu était en train de frapper les premiers-nés, en même temps, on était en train de manger le korban. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est pas le même thème, mais ça se passait au même moment. Donc on a trouvé quand même un thème commun. Donc, la Torah, à la base, voilà, on a encore un exemple ici, halakhique. La Torah, à la base, n'avait pas précisé jusqu'à quelle heure je peux manger le korban Pessah. Je peux le manger, a priori, toute la nuit. La Torah dit balayla azé. Mais comme, juste après, la Torah a dit, je passerai dans la terre d'Égypte pendant balayla azé, dans la nuit, pour frapper Kol Bechor, et que nous, on sait que la plaie des premiers nés, balayla azé, était au milieu de la nuit, de là, on comprend que le premier pasteur qui dit balayla azé, qui lui aussi a dit balayla azé, et ben balayla azé, ça voudra dire, tu devras t'arrêter, non pas au petit matin, mais au milieu de la nuit, pour le korban Pessah. Une fois que le milieu de la nuit est passé, on n'a plus le droit de manger le korban Pessah. Donc voilà, on a encore ici un autre exemple, halakhique. On a fait ici une Gezera Shava. Voilà, on a fait ici que deux principes, et je vous préviens, après ça va se corser. Le deuxième n'est pas logique.
Si tu regardes la Torah et tu cherches à chaque fois Alaïla ou Baalaïla, avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après,
ça a déjà été fait pour vous.
Alors, ils ont trouvé que c'est trois.
Non. D'accord, pourquoi on se permet de faire ça? Parce que la Gemara nous dit que sur ça, les Chachamim ont dit qu'on fait une comparaison. Mais vous avez raison qu'il n'y a aucune logique mathématique ici. Aucune. C'est seulement une méthode que la Torah te dit. La Torah, on dit que la Torah chez Birtav, le Chumash, c'est comme un livre crypté. Il faut avoir le code pour le décrypter. Là, on est en train d'étudier les 13 codes pour le décrypter.
C'est pas tout à fait ça. C'est pas un code.
C'est un code, c'est une méthode.
Après, une méthode, normalement, tu es censé l'appliquer pour ce que tu veux. Or que là, on te dit, maintenant, tu peux pas l'appliquer pour ce que tu veux parce que le nombre est limité.
Donc, le code, il y a un cahier des charges pour le code. On te dit, tu peux l'utiliser tant et tant de fois pour telle et telle porte.
Mais des fois, les autres fois, ça marcherait pas exactement. Il y a toujours des gens qui cassent. Donc, s'il y a une fois de plus, c'est que ça n'est pas eu vraiment.
D'accord. Pourquoi
c'est
non, avec la logique.
D'accord, mais
le deuxième n'est pas logique. Le premier était logique.
J'imagine que ça a été fait avant. Oui.
Qu'est-ce que demain?
Bon travail.
Merci.
Il y a l'école demain.